Et à 7h50, c'est l'heure de notre invité. On vous emmène ce matin dans l'enfer du jeu, la folie des paris, dans les cercles les plus fermés, parfois tenus par les mafias, car cette semaine était publié le bilan annuel sur la criminalité organisée, bilan dressé par le service d'analyse de la police judiciaire. Bonjour Philippe Ménard. Vous êtes le chef du service central Course et Jeux. Alors, on a appris hier soir qu'une enquête était ouverte en France pour corruption sportive. C'est l'affaire des matchs truqués dans le tennis pro. C'est une première en France?
Eh bien oui, on s'en doutait que dans les matchs de tennis, on pouvait avoir des matchs truqués, comme on les appelle. Et c'est vrai qu'avec les collègues belges, nous avons, depuis le début de l'année 2019, placé en garde à vue plus d'une vingtaine de joueurs de tennis français.
C'est la Belgique qui a commencé par ouvrir une enquête, hein,
oui,
c'est ça ?
Oui, parce que les faits de Paris sont pris en Belgique par la communauté arménienne, des gens de la communauté arménienne. Et par contre, la corruption s'étend à toute l'Europe. En particulier des joueurs français qui avaient affaire avec ce milieu.
Et c'était des matchs de seconde zone, il y avait des enjeux financiers.
Oui, c'est
forts.
Ce qu'on appelle les matchs challenge ou futur, c'est-à-dire qu'au classement ATP, ça concerne des joueurs qui sont au-delà du 300e rang, mais qui sont quand même classés ATP et qui voyagent dans le monde entier. Le problème de ces tournois, c'est que même celui qui gagne au bout du compte aura du mal à rentabiliser tous les frais qui entoure le déplacement, l'hébergement, etc. Donc, les truqueurs de match ont trouvé là un avantage et proposent aux joueurs de perdre un set ou un jeu à un moment bien précis de la partie, parce que le meilleur rapport, c'est de faire du pari en live betting, c'est de parier en direct.
Sur
qui n'est pas
Internet,
forcément
ouais.
autorisé dans tous les pays, et en France il est autorisé mais sous certaines conditions. Et donc là, on parie à l'étranger sur ces occurrences par exemple, perdre le troisième jeu du deuxième set. Et du coup, on fait des profits assez importants, et il suffit d'échanger avec les joueurs qui ont été d'abord contactés par un autre joueur, parce que c'est très fermé comme milieu, et donc les joueurs se donnent un petit peu la combine entre eux, et après ils reçoivent des instructions par WhatsApp et sont payés en espèces pour faire ainsi perdre un jeu ou un set entre 1 500, 2 000, voire jusqu'à 3 000 euros, suivant l'enjeu de la partie.
Alors, dans le bilan annuel, on retient aussi la fermeture en série des cercles de jeux à Paris, Clichy-Montmartre, l'année dernière. Qu'est-ce qui n'était pas légal là-dedans? Pourquoi vous fermez ces cercles?
Alors, c'est assez compliqué à expliquer en si peu de temps, mais je vais essayer de résumer.
Pour faire simple, oui.
C'était la situation des cercles était particulière parce que c'était des associations de loi 1901 qui géraient les établissements de jeux. Donc, avec des flux financiers dont la traçabilité n'était pas valablement assurée. Et surtout, avec le fait que la contrepartie financière des enjeux pour certains jeux de contrepartie était faite soi-disant par des joueurs dits les banquiers. Comme quand vous jouez au Monopoly, il y a un joueur qui fait le banquier.
Ouais.
Et bien normalement, c'était la situation qui devait se trouver dans les cercles. Sauf que le joueur banquier était toujours un fauné de ceux qui avaient et qui géraient les intérêts du cercle. Ce qui fait que lorsque vous êtes joueur et que vous gagnez, vous n'avez pas à déclarer vos gains à l'administration fiscale, puisque c'est des gains de jeu. Sauf que nous, on a démontré que c'était des faux joueurs lambda et que c'était plutôt une professionnalisation des gens qui tenaient le cercle. Et de ce fait-là, on détournait plusieurs millions d'euros, évidemment en cash, donc pour pouvoir servir à d'autres fins.
Et l'intention des autorités, c'est de remplacer ces cercles par des clubs, c'est ça ? Où vous
exactement.
Pourrez mieux contrôler l'origine des fonds,
voilà,
notamment ?
Voilà, en fait, les clubs aujourd'hui, c'est exactement au niveau de l'offre de jeu, c'est exactement la même chose que les cercles. Sauf que la structure qui gère aujourd'hui les clubs, c'est une société commerciale. Société commerciale que nous connaissons, société commerciale qui a des obligations comptables, comme toutes les sociétés, et sur laquelle nous avons une traçabilité des flux beaucoup plus intrusive. Et dernièrement, c'est elle, cette société commerciale, qui assure la contrepartie financière. Donc on sait à qui attribuer les gains.
Et donc, on assèche comme ça les tripots clandestins aussi ?
Alors évidemment, plus vous offrez une offre de jeu légale, diversifiée et multipliée au sens d'implantation dans la capitale, moins vous favorisez l'essor des tripots clandestins qui, évidemment, avec la fermeture des cercles, avaient eu tendance à se multiplier sur la capitale notamment.
Autre milieu que vous surveillez avec attention hein, dans ce service course et jeux de la police judiciaire que l'on découvre ce matin, ce sont les paris en ligne. Alors depuis la loi de 2010 et l'ouverture à la concurrence hein, de ces paris sur Internet, le marché explose surtout pendant les grandes compétitions comme lors du mondial là, féminin de football.
Oui, on va avoir les chiffres à l'issue de la finale, mais d'ores et déjà on peut dire que les chiffres sont meilleurs. Attention, nous, on ne gère pas les jeux en ligne. C'est l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui a été créée justement en 2010, comme vous le rappeliez. Nous, on gère tout ce qui est paris en dur. Mais ce qui reste quand même, je dirais, la majorité des paris qui sont effectués. C'est-à-dire, lorsque je vais faire un pari sportif, soit je vais en ligne, effectivement, mais c'est une petite partie des joueurs, soit je vais dans un point de vente de la Française des Jeux, qui a le monopole. Donc, je peux préparer mon pari sur un smartphone, qui est une forte de numérisation du pari, mais ça reste toujours en point de vente. Et donc, effectivement, avec l'essor des paris sportifs, on voit bien que c'est pareil, on peut avoir de plus en plus de trucages de matchs, et donc nous travaillons aussi sur les matchs de football. Sur le mondial de féminin, on n'a pas eu de problème.
Vous vous intéressez aussi beaucoup au problème de l'addiction, et notamment de l'addiction de jeunes, des mineurs qui vont jouer. Alors c'est interdit, hein. Normalement quand on a moins de 18 ans, on n'a pas le droit d'aller parier dans un bar PMU.
Effectivement. Alors les jeunes vont très peu dans les PMU, mais donc vont plutôt dans les points de vente FDJ, justement pour les paris sportifs et les jeux de grattage, qui sont assez addictifs. Et donc en fait, on était en train de discuter là justement au niveau interministériel pour essayer de mieux réguler cette situation, parce que par exemple, dans les casinos que nous contrôlons, il n'y a pas possibilité pour les mineurs d'entrer. Il y a un contrôle aux entrées. Et pour les points de vente, il n'existe pas ce contrôle aux entrées. Donc, nous allons travailler à d'abord pénaliser le fait de faire de la vente aux mineurs, parce que contrairement à la vente d'alcool qui est sanctionnable par un délit...
Là, le buraliste, il risque rien s'ils vont appliquer...
Ah non, mais justement, on va changer les choses. Et puis, on va imposer à la conservation des images aussi en vidéo, justement pour permettre aux services qui pourront accéder à ces images de constater qu'il y a de la vente aux mineurs. Parce qu'il y a eu une étude de l'Observatoire des Jeux en 2015 qui a démontré qu'il y avait un mineur sur trois qui avait déjà pu engager des paris sportifs ou faire des jeux de grattage.
Un mineur sur trois a déjà joué.
C'est une étude. Moi, je n'en ai pas la preuve, mais c'est quand même quelque chose qui a été déclaré.
Et donc là, vous nous annoncez un projet de loi ce matin sur lequel vous travaillez, où par exemple, on mettra des caméras dans chez les buralistes.
C'est dans le cadre de l'ordonnance sur la régulation des jeux en France qui modifie un petit peu l'équilibre des choses à l'heure actuelle, et surtout qui est faite dans le cadre de la privatisation de la FDJ. Et donc, face à cette privatisation, nous avons voulu aussi faire avancer notre mission, qui est celle d'assurer la sincérité et la régularité des jeux, mais aussi d'empêcher le jeu des mineurs.
Parce qu'il y a un vrai problème d'addiction.
D'addiction,
hein.
Derrière.
Faut pas
effectivement,
minimiser,
ça fait partie de notre mission avec d'autres partenaires.
Merci beaucoup Philippe Ménard d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le patron du service courses et jeux à la police judiciaire. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.